7 août 2020, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de Studio Kalangou, le forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères des médias de Niamey. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler du message à la nation du président de la République à l'occasion du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Niger. Mahamadou Issoufou a réaffirmé son engagement à passer le témoin au nouveau président qui sera élu à l'issue des scrutins de décembre 2020 et février 2021 et a appelé l'ensemble de la classe politique nigérienne à un débat sain pour témoigner au peuple nigérien le respect qu'il mérite. Nous allons aussi nous poser la question de savoir, à 60 ans après l'indépendance, est-ce que le Niger peut être qualifié de pays indépendant? La fête de la proclamation de l'indépendance, on le sait, est couplée à la fête de l'arbre où chaque Nigérien est appelé à planter un arbre pour préserver durablement l'écosystème du pays. Nous parlerons donc des acquis de cette pratique. Enfin, de la politique, le tribunal de grande instance de Niamey, dans un verdict rendu hier, a décidé que Oumarou Nouma est désormais le président par intérim du parti Moudenfa Lumana. On en parle également. Donc, pour échanger sur ces sujets, nous recevons dans ce studio Ousseyni Issa et le journaliste freelance. Bonsoir.
Bonsoir.
El Hadj Souleymane Mahmoudou du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir.
Bonsoir.
Roufaï Dandoua, il est journaliste freelance. Bonsoir Roufaï.
Bonsoir Nafissa.
À la modération, Nafissa Adam Sirfo. Chers confrères, merci d'être là. Le Niger a célébré le 3 août dernier la fête de la proclamation de l'indépendance. Comme à l'accoutumée, le président de la République Issoufou Mahamadou a adressé un message à la nation. Dans cette adresse, Issoufou Mahamadou a réaffirmé son engagement à passer le témoin au nouveau président qui sera élu à l'issue des scrutins du décembre 2020 et février 2021. Issoufou Mahamadou, comme je vous le disais, a de ce fait appelé l'ensemble de la classe politique nigérienne à un débat sain pour témoigner au peuple nigérien le respect qu'il mérite. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter.
Pour la première fois en 60 ans d'indépendance, un président démocratiquement élu passera le témoin à un autre président démocratiquement élu. Pour garantir et renforcer la transparence et la crédibilité des différents scrutins, j'ai demandé à l'OIF, la CEDEAO et l'Union africaine l'audit du fichier biométrique en cours d'élaboration. Cet audit renforcera la confiance des acteurs politiques et renforcera notre processus électoral. Je me réjouis aussi de l'établissement par la CENI d'un chronogramme des élections consensuelles parce que conforme au souhait de tous les partis politiques. Les partis politiques doivent tirer de nos 30 années d'histoire démocratique cette leçon évidente. Le peuple nigérien rejette les archaïsmes politiques, notamment les replis identitaires. Il reste attaché à son unité et préfère voter pour des idées. Un débat sain et programme contre programme sera la meilleure façon de lui témoigner le respect qu'il mérite.
C'était là un extrait de l'adresse du président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Niger. Je commence par vous, Ousseyni Issa, cette adresse du président de la République. Que retenir donc de cette adresse, Ousseyni Issa?
Bon, ben, merci Nafissa. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est la même redondance du point de vue, comme avait dit, des proclamations qu'il expose à chaque fois. Il dit qu'il va s'en aller, il l'a dit à maintes reprises, mais le problème c'est qu'il n'a pas le choix. La Constitution prévoit un dispositif qui ne permet en aucune façon à un président en fin de mandat de pouvoir continuer. Maintenant, pour ce qui est des autres aspects qu'il a eu à évoquer, notamment que la classe politique aille s'entendre, moi je dis quelque part, le tout n'est pas de faire un discours pour demander à la classe politique de s'entendre, le tout, il faut qu'il s'implique lui-même.
S'impliquer activement
suppose quoi? C'est-à-dire, le discours est là, la réalité est tout autre. on se pose bien des questions. On a vu, par exemple, concernant la date des élections locales, oui, on a vu comment il y a eu du tiraillement. Maintenant, quand Seyni Omar est allé le voir, la donne a changé. Parce que dans un premier temps, on dit que ce n'est pas possible de pouvoir organiser les élections locales avant le premier tour des élections présidentielles couplées aux législatives. En fin de compte,
ça a changé.
Oui. Ça veut dire que s'il s'implique pour qu'effectivement la situation, en tout cas la situation politique soit apaisée, moi je me dis qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on continue à se tirailler. Et je pense que son implication active est très importante pour permettre à ce qu'on ait à des élections vraiment apaisées.
Alors, il faut nécessairement que le président s'implique activement. Roufai, bientôt 10 ans qu'il est au pouvoir, le dialogue politique tant prôné n'est toujours pas effectif. Selon vous, comment relancer vraiment ce dialogue?
Bien vrai que quand il dit que c'est un engagement qu'il a pris de partir après ces deux mandats, c'est que quelque part il n'a pas le choix, c'est la constitution qui le prévoit. Je ne pense pas que ce soit une prouesse d'avoir quitté parce qu'il a fait ces deux mandats, c'est tout à fait normal. Donc, je pense qu'on ne doit pas se bomber le torse parce que le président va partir ou qu'il ressasse à chaque fois qu'il va partir. Et c'est vrai, et son prédécesseur ne l'avait pas fait, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il le dit. Mais je pense que quelque part, moi, ce qui m'a le plus tiqué, c'est lorsqu'il a parlé du repli identitaire. Et j'aime bien cette expression. Je me rappelle que lorsqu'il y avait eu les élections qui avaient amené le président Youssouf au pouvoir, on s'est rendu compte tous que presque tous les leaders politiques ont fait des scores fleuves dans leur région. Preuve que les gens au Niger ne votent pas de programme. Youssouf le sait plus que n'importe qui au Niger, que les Nigériens ne votent pas le programme. D'ailleurs, les gens, ce n'est pas tous les candidats qui ont des programmes, et même s'ils ont des programmes, les gens n'ont pas la capacité de le lire, et même s'ils le lisent, ils n'ont pas la capacité de le comprendre en le décortiquant. Pourquoi? Parce que la majeure partie de la population du Niger est analphabète. Et dès lors que eux-mêmes, les politiques, ça les arrange, ils ont continué dans cette pratique en ne privilégiant pas une éducation de qualité au Niger pour que les gens comprennent cela. Aujourd'hui, quand vous partez, par exemple, à Tawa, le fief du président de la République sortant, il y a des localités où il a fait plus de 100%. Quand vous partez à Zender, par exemple, Ousmane a fait aussi des larges scores. Quand vous venez ici à Niamey, Hama a fait des scores. C'est dire que les gens votent le gars de chez eux. Donc, et aujourd'hui, c'est bien vrai, c'est bien beau que le président appelle à ce que les gens dépassent cela. Mais comment ils vont dépasser cela? Ce n'est pas en quelques mois que les gens vont dépasser cela. Puisque tout le monde pense que non, je dois voter ce monsieur parce qu'il est de ma localité. Il aurait dû peut-être le faire depuis très longtemps. Je crois qu'on doit aller vers un changement ou vers une refondation de la démocratie à la Nigérienne pour qu'on puisse amener le Nigérien, comme l'a dit le président de la République, à être respecté et à lui donner la possibilité de choisir le candidat qu'il veut sur la base d'un programme de société, sur la base de ce qu'il propose aux citoyens nigériens.
Parlant du dialogue politique, êtes-vous optimiste quant à vraiment la relance et l'effectivité de ce dialogue?
Je ne suis pas optimiste. Pourquoi? Parce que chacun est campé dans sa position. Quand vous prenez par exemple l'opposition, de l'autre côté, le chef de file de l'opposition se mue dans un mutisme incroyable. On ne sait pas ce qu'il veut, ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire. On ne sait pas. Même son parti est dans un problème. On va en parler. Il ne dit rien. De l'autre côté, la majorité présidentielle, elle est là. Elle est campée sur sa position. Elle aussi. Heureusement qu'à un moment, le président juste récemment s'est impliqué et on va avoir les élections locales avant les présidentielles. Sinon, on a parlé ici dans ce studio. Si on savait qu'on avait une date qu'on pouvait insérer avant les présidentielles couplées aux législatives pour faire les locales, pourquoi ne pas le faire et gagner du temps? Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est quand on est dos au mur et quand on a plus de temps, on a plus de temps et qu'on sort une date de la poche et on la propose. Je pense que les gens auront intérêt à gagner et en étant plus lucides, en étant plus réfléchis dans ce qu'ils vont proposer. et ça va rejoindre le discours du président, le respect que le peuple nigérien a besoin de la part des hommes politiques.
Alors vous, Elhaj Souleymane, à quelle analyse faites-vous vraiment de cette adresse du président du 3 août dernier?
Je pense que en commençant d'abord par la question des élections et en rappelant justement qu'il est en train de jouer sa dernière carte, si j'ose dire, en réalité, je suis d'accord avec Issa et Rufai. Au Niger, la loi fondamentale elle est très claire. Mais je pense que le président Issou se glorifie de cela parce que non seulement avec la défaillance de son prédécesseur et ce qui est arrivé, mais aussi franchement en Afrique ce n'est pas la règle. Et c'est-à-dire qu'il se glorifie d'être en Afrique le seul en tout cas président qui a ouvertement, à peut-être dès le début de son mandat, il est convaincu qu'il va partir. Et on se rend compte aujourd'hui, à l'évidence, il y a des grands pays, aujourd'hui au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, rien n'est sûr. Les gens pensent que ce président risque de modifier, là. Par exemple, Ouattara a même annoncé qu'il va partir, mais on pense même qu'aujourd'hui ou demain, il va annoncer encore son comeback. Donc, bref, je pense que c'est ça qui fait en réalité l'intérêt. Au niveau, vraiment, je dis, la communauté internationale, Issou apparaît comme vraiment un grand leader sur cette question. Il est le champion sur la question. Et je le dis vraiment, quand vous entendez les gens comment ils parlent du président Issou par rapport à la question, franchement, ça fait plaisir. Donc, en réalité, il sait pourquoi il le dit. Il est en train de faire l'exception. C'est-à-dire que lui, je pense que ce qui est important à son niveau, c'est qu'il a bien compris la leçon de l'histoire. Ce qui est arrivé à Tangier, personne ne peut échapper, tant que c'est un militaire avant tout. Donc s'il n'a pas échappé, quelqu'un d'autre ne pourra pas échapper. Donc bref, la retenue de la leçon de l'histoire, et c'est important. Maintenant, par rapport à la question de république identitaire, je pense que ce que Rufai a dit, Issou est très conscient justement que les gens, effectivement, votent autrement. Mais je pense que le président a voulu un peu glisser sur les débats pour dire qu'il entend ce qui se dit donc, au niveau de, en tout cas du pays.
Effectivement.
Je pense que cette question de son poulain, en tout cas le candidat Bazoum, qui, bon, les gens ont tendance à invoquer l'article 47, et que lui, il pense que non, véritablement, il faudrait avoir d'autres arguments. Il faut battre programme contre programme, il faut mettre en avant des idées, parce que aussi, encore une fois, je me souviens de l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique sur la question du choix du candidat. Issou a dit clairement que le PNDS a choisi quelqu'un parce que le jeunesse a demandé au président, mais vous avez choisi quelqu'un comme qui d'une minorité. Il dit que non, ça montre simplement que notre parti met en avant les idées, pas non, simplement des questions tribalistes. Donc je pense que c'est de ce point de vue, je pense que c'est que le président a voulu un peu apporter un peu de l'eau à ce moulin, en tout cas à ce débat qui est ambiant. On se rend compte, par exemple, ces dernières 48 heures sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est tout le monde en parle. Donc bref, c'est quand même aussi des questions essentielles qui montrent qu'en Afrique, nous avons à comparer avec les grandes démocraties. C'est pourquoi on dit nous sommes dans un processus démocratique. Ça va finir. Moi, je pense qu'à un certain moment, les partis politiques aujourd'hui, la floraison des partis politiques, notre souhait, c'est que quand, en tout cas, on devient, en tout cas, on apprend à grandir démocratiquement parlant, qu'on ait au moins trois grandes formations politiques vraiment qui peuvent réunir tout le monde pour faire vraiment le combat politique. C'est ce qui, en tout cas, frappe l'esprit. C'est que, si au niveau donc, de la classe politique, vous parlez du dialogue politique, c'est que le président aussi, en disant clairement que les élections auraient lieu selon le programme de la CENI, c'est qu'en réalité, ceux qui sont en train de s'amuser par rapport à cela se disent clairement que, en tout cas, si le chef de l'État opte pour ça, c'est qu'il n'y a pas de doute, il y aura élection dans ce pays.
60 ans aujourd'hui que le Niger est devenu indépendant, 60 années marquées de beaucoup d'événements. Ousseini Issa, selon vous, quel est vraiment le chemin parcouru en 60 ans?
Oh ben, Avant de répondre, je vais juste préciser une chose, c'est que les tentatives de vouloir aller au-delà, c'est dans les pays francophones, dans les pays anglophones comme le Ghana, le Nigeria, c'est pas possible. On a vu les alternatives depuis que ça a commencé.
Ce n'est qu'un pays
Dans les pays francophones qu'on a.
Pas non. Il y a peut-être par exemple à cause plus de coups d'État que nous. Non, le Sénégal a toujours eu une alternance.
Alors on laisse.
Après,
je ne pense pas que ça soit ainsi.
Non, c'est surtout les pays francophones. J'insiste là-dessus. Maintenant, pour ce qui est du parcours de 60 à aujourd'hui, je peux dire, c'est en dents de scie, en prenant les secteurs. Quand je prends le secteur de l'éducation, je peux dire que, du point de vue, comment veut dire, taux, c'est-à-dire taux d'alphabétisation, de scolarisation, on a connu, lié à la démographie, bien évidemment, on a connu une percée. Il fallait créer. Mais du point de vue de la qualité, ça c'est carrément. On est en train d'atteindre le degré zéro. Sur le plan sanitaire également, à l'époque, bon, c'est lié à la démographie, bien évidemment, il faut faire le parallèle. Sur le plan sanitaire, quand on regarde un peu dans les formations sanitaires, on prenait immédiatement les patients en charge. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, vous tombez malade. Soyez-en sûr, il n'est pas évident que vous en sortiez.
Il y a le système de gratuité.
Quel système de gratuité? Non, mais ce n'est pas appliqué, c'est juste un slogan. Non, c'est juste un slogan. Maintenant, sur les autres secteurs, les autres plans, notamment un peu la gestion des ressources et tout et tout. Par exemple, le régime Bury a commencé avec un budget de 3 milliards environ. Mais regardez ce qu'ils ont pu réaliser en termes de soucis, de Chanoussi, Djakou s'est arrangé à faire un document là-dessus. Il y avait au moins 72 unités industrielles. Toutes ces unités industrielles, au fil du temps, ont disparu. Même les dernières, les OFEDES et autres, là, ont été bradées à compter de la décennie 2000. Je veux dire, de ce point de vue, moi, je considère que c'est carrément un recul. C'est-à-dire, on n'avance pas, on ne consolide pas les acquis. On les compromet plutôt. Aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, notre uranium, ça sert à quoi? On ne sait même pas comment c'est exploité. Et tout ça, il faut comptabiliser, il faut comptabiliser ça, en tout cas dans le bilan. Et quand on regarde, et tout le temps on dit non, c'est la démographie, c'est dû au fait que les gens, les Nigériens. Moi je dis, il faut aussi considérer que la démographie peut être quelque chose de très important. Les pays occidentaux, ils ont souvent 50, 60, 100 millions d'habitants. Est-ce que ça leur empêche de ils ont des pays. Nous n'avons que 21 millions d'habitants aujourd'hui et qu'on s'alarme alors qu'il y a des ressources. Le problème qui se pose de plus en plus, en tout cas depuis que la démocratie arriva, c'est que les gens, quand ils viennent au pouvoir, ce n'est pas pour travailler au nom du pays, mais c'est pour travailler à s'enrichir. C'est pas pour travailler dans l'intérêt du peuple, mais prioritairement
pour s'enrichir.
Oui. On voit un peu ce qui se passe. Allez-y fouiller les anciens ministres là. Vous allez tout au plus trouver une villa qui modeste, dans laquelle la personne a vécu jusqu'à sa mort. Et jusque sous Kouché, c'était ça. Mais depuis que la démocratie est arrivée, avec le changement de régime et tout, on voit comment les choses se passent. Les gens construisent des maisons en hauteur, mais ils ont trouvé l'argent où? C'est l'argent public qui est détourné. Du point de vue de la gestion de l'État, vraiment, c'est carrément un recul net. Ça, c'est incontestable.
Justement, parlant du régime Roufaye Dandoua, on sait que le Niger de l'indépendance à la date d'aujourd'hui a connu 4 coups d'État. Selon vous, comment vraiment tourner définitivement ces pages sombres de l'histoire du Niger?
Je me rappelle d'un auteur qui disait en Afrique, bon, c'était un auteur qui avait écrit un ouvrage sur la situation en Afrique francophone quand il parlait de chaque jeune militaire à l'époque qui attendait son 18 juin, quoi, comme en faisant référence à l'appel du général de Gaulle. Au fait, à un moment, c'était presque la règle, quoi. Pas seulement, par exemple, en Afrique francophone que j'évoquais, quand vous prenez le Nigeria, il y avait eu plusieurs coups d'État, ils ont même fait plus de coups d'État, je crois, que nous. Quand vous prenez aussi le Ghana avec Raoulins, un peu partout en Afrique, il y avait eu ces coups d'État. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la jeune génération qui est en train d'arriver, qui apparemment est en train de s'imprégner de la gestion de la cité, de la chose publique, de quand on voit aussi ce qu'on condamnait tout à l'heure, la floraison des partis politiques, mm-hmm. les gens commencent de plus en plus à s'intéresser à la politique. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut que comme je lisais hier sur un groupe de journalistes où un confrère disait « Politisons-nous tous, politisez-vous mm-hmm. ». Je pense qu'il faut que tout le monde s'engage dans la politique. Dans tous les cas, que vous fassiez ou pas la politique va vous faire comme disait donc vous voyez, non, et on fait tous de la politique d'une manière comme d'une autre, mais on peut ne pas s'engager sur le terrain politique. Tout le monde fait de la politique, mais on la fait autrement. Donc je pense que la meilleure manière de sortir de ce carcan de coup d'État, c'est de faire de la politique, de comprendre ce qu'est la politique, de comprendre ce qu'est la démocratie, mm-hmm. pour empêcher l'intrusion des militaires sur l'arène politique. L'exemple, par exemple, du président de la République qui va quitter après ces deux mandats est un gage de responsabilisation et à l'endroit de la jeunesse, mm-hmm. qui doit comprendre qu'aujourd'hui, on peut gagner les élections sans passer par les armes. On peut mm-hmm. venir au pouvoir sans passer par la petite porte. Parce que moi, je pense que venir au pouvoir par un coup d'État, c'est venir par la petite porte. Donc, je pense que la meilleure manière, c'est de faire de la politique. Et ça va permettre à nos nations, à toutes les nations africaines, parce que les nations africaines se valent presque toutes, hormis peut-être l'Afrique du Sud, même si aussi là-bas, il y a un taux de pauvreté énorme. Mm-hmm. Je pense que presque toutes les nations africaines se valent. Il y a celles qui sont un peu plus en avance que les autres. Mais dans tous les cas, on est presque dans les mêmes carcans. On est mm-hmm. des pays sous-développés. Okay. Et le salut passe par ce que je dis, s'intéresser à la politique, faire de la politique proposer des bons projets de société à la population. Mm-hmm. Tout à l'heure, Ousmane a rappelé les 70 unités industrielles qu'on avait. Autant de jurys. Imaginez, autant de jurys, on avait 70. Aujourd'hui, on n'en a aucune.
Donc,
le parallèle est bien fait. Si on avait même consolidé les 72, aujourd'hui, on serait très loin.
Elhadj Souleymane, avec vraiment tous ces événements dont viennent citer vos prédécesseurs qui ont marqué le Niger en 60 ans, peut-on dire que le Niger est vraiment un pays indépendant?
L'indépendance, qu'elle soit pour un pays ou bien pour un individu, il faut d'abord considérer les éléments qui la caractérisent. Mm-hmm. Prenons par exemple sur le plan politique. Oui, nous sommes dans une démocratie, nous faisons nos élections, on choisit nos dirigeants. Nous avons un président élu, donc politiquement, on peut dire que nous sommes indépendants. Mm-hmm. Sur le plan économique, est-ce que véritablement nous avons une certaine emprise sur les activités économiques? Par exemple, on parle de l'uranium. Mm-hmm. Nous savons que véritablement, nous ne disposons pas de nos ressources comme on l'entend. Mm-hmm. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, la question d'indépendance reste un point d'interrogation.
Oui.
Récemment, même pas au Niger, c'est toute l'Afrique de l'Ouest, ou disons l'Umoa, la question de l'éco.
Oui.
Vous voyez un peu d'où nous venons, cette question où nos ressources, nos devises sont déposées en garantie au niveau, donc, dans le cadre du FACFA, donc, au niveau de la France. Mm-hmm. Vous voyez que sur le plan économique, nous sommes loin d'être indépendants. C'est dire que véritablement, nous avons encore à nous battre. On sera indépendant le jour où véritablement nous pouvons jouir de notre souveraineté, faire de nos ressources ce que nous voulons. Nous pouvons décider aujourd'hui de dire que on ne vend plus à la France notre uranium parce que tout simplement nous considérons qu'il faut que les Chinois viennent nous créer une usine pour transformer au profit de notre pays. Mm-hmm. Nous ne sommes pas encore là. Mm-hmm. Sur le plan sécuritaire, vous voyez, par exemple, un autre aspect qui montre que véritablement nous ne sommes pas indépendants. Mm-hmm. C'était un débat national où véritablement les gens pensent que on n'a pas à amener donc les bases militaires de notre pays. Vous voyez, en fait, c'est-à-dire qu'en tout cas, quand on considère un certain nombre d'éléments stratégiques, la sécurité, l'économie, je pense que, franchement, il faut le reconnaître, nous sommes loin d'être indépendants. Donc, on a à travailler pour être indépendants. Et je ne suis pas sûr que ce que disait Rufaille, que tout s'investir dans la politique. Non, je pense qu'en réalité, chacun selon sa vocation. Mm-hmm. Quand ta vocation, c'est de faire de l'économie, c'est de faire développer ton potentiel, en tout cas, dans la société civile. Donc, c'est tout cela, parce qu'en fait, la vérité, pour faire face à la gabegie, il faut des contre-pouvoirs réels. Il faut une Assemblée nationale, en tout cas, qui puisse consentir ou voter les lois, consentir le budget. Donc, il faut une Assemblée qui ne soit pas une caisse d'enregistrement. Il faut une société civile capable véritablement de jouer son rôle. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes en démocratie et le danger, c'est que nous sommes dans une démocratie libérale.
Mm-hmm. Donc, il reste donc comme beaucoup disait, à faire comme vraiment pour que cette indépendance soit
la démocratie libérale, c'est une démocratie des riches. Mm-hmm. N'accède au pouvoir que les riches. Aujourd'hui, vous voulez être député national, si vous n'avez pas d'argent, c'est ça, en fait, le danger, la vérité. Mm-hmm. C'est pas pour rien que quand les gens viennent au pouvoir, effectivement, ils passent leur temps à s'enrichir parce que en amont, quand ils sont députés, ils pensent avoir acheté leur voix. Donc, c'est-à-dire que, franchement, il va falloir réfléchir cela, créer de véritables contre-pouvoirs ou véritablement, lorsque ça ne va pas, vous voyez, par exemple, quand il y a un scandale de détournement chez nous, la personne ne démissionne pas. Les gens ont perdu, alors qu'ailleurs, un homme politique, même sur la base de suspicion, il s'arrête, il dit non, moi je m'en vais, il faut d'abord qu'on...
Il garde sa dignité.
Absolument. Mm-hmm. Donc vous voyez, nous sommes loin de ces normes. C'est-à-dire que, véritablement, il va falloir créer vraiment de véritables garde-fous, de véritables contre-pouvoirs efficaces, en tout cas dans le sens vraiment de sanctionner, parce que l'autre aspect, c'est aussi la justice. Mm-hmm. Lorsque dans un pays, on a une justice indépendante, le procureur de la République, quand il y a vraiment un scandale dénoncé par la presse, automatiquement, il poursuit. On se rend compte que dans nos pays, ce n'est pas le cas.
Merci beaucoup. Comme je vous le disais,
quand je dis, par exemple, de se politiser, ce n'est pas être des politiciens. On peut faire de la politique autrement en étant un garfou. Mais j'aime bien la question là, est-ce qu'on est indépendant?
Oui.
Moi, je pense qu'on est indépendant.
Okay.
Et sur le plan économique, et sur le plan, sur tous les plans. Pourquoi? Parce que quand il parle, par exemple, de l'uranium, l'uranium à lui seul, même si on nous laisse le vendre à qui on veut, ne peut pas suffire à développer un pays. Je pense que tout est lié à la bonne gouvernance. Mm-hmm. S'il y avait de la bonne gouvernance depuis 60 à aujourd'hui, on serait largement en avance.
Alors, oui,
par rapport à ce que vous faites, les ressources naturelles, la France s'est développée sur la base de ces ressources naturelles.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, notre pétrole est en train d'être exploité. Il n'y a pas longtemps, on a eu une pénurie de carburant.
Mm-hmm.
Parce que les Chinois de la Soraz disent qu'ils ne vont pas donner à la SONIDEP.
Mm-hmm.
Ça veut dire que c'est les Chinois qui contrôlent nos ressources.
C'est
les autres qui... Non, mais ça contribue...
Non,
la France s'est développée sur la base de l'agriculture, ce qu'on a délaissé.
Alors, nous continuons sur un autre sujet. La fête de la proclamation de la République, on le sait, est couplée à la fête de l'arbre. Et donc, pour préserver durablement son écosystème, le Niger a lancé un programme de restauration des terres. Les Nigériens sont donc invités à planter chacun un arbre ce jour-là pour lutter contre la désertification du pays. Cette année, la cérémonie de plantation d'arbres a été faite dans la région d'Agadez, où 3000 arbres ont été plantés. Ousseini Issa, plantation d'arbres, on le sait, c'est une tradition. Que dire donc de cette pratique? Quels en sont les acquis?
Bon, il faut dire que c'est une tradition qui a été instituée sous le président Kunti.
Mm-hmm.
Et je crois en 75, à partir de 75.
Oui, oui.
Et c'était une bonne initiative, planter des arbres. Mais bien avant Kunti, sous le règne de Yori, la ceinture verte a été créée.
Mm-hmm.
Je crois la bande verte là, avec Kunti, ça a été prolongé. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est bien beau le jour, le 3 août, qu'on dise à chacun. Mais le tout n'est pas de planter un arbre.
Voilà.
Encore faudrait-il l'entretenir.
Voilà.
On a vu des bois. Par exemple, je prends juste l'exemple de la ceinture verte.
Mm-hmm.
Là. On a vu comment les gens ont morcelé cette ceinture verte-là. Mm-hmm. Ils ont transformé Karma des pas entiers. Mm-hmm. Il n'y a pas longtemps, à l'occasion, au cours d'un conseil de ministres, je crois, les zones qui ont été détruites, ces zones-là ont été déclassées. Mm-hmm. On dit, voilà, voilà les zones qui vont être conservées. Mais c'est ça qui est dramatique. Mm-hmm. Vous plantez, non seulement il n'y a pas d'entretien, mais même quand les herbes qui parviennent à grandir, des gens peuvent venir les couper pour construire. Moi, je dis, c'est un problème. C'est un mm-hmm. recommencement. Faut-il, comme avait dit, se cantonner à dire, bon, appeler les gens. Mais, c'est fini, la fête est finie, non? Le 3 août. Bon, c'est terminé. Il faut encore l'année prochaine. Parce qu'il y a eu des projets de restauration de la ceinture verte. Mm-hmm. On ne sait pas ce que c'est devenu. Un temps, il fallait faire une clôture. Ça a même commencé à être posé. Mm-hmm. Après, les gens ont bouffé l'argent. Mm-hmm. Le projet s'est arrêté. Ça veut dire qu'on est dans un schéma d'éternel de recommencement. Mm-hmm. Chaque année, les arbres qui vont être plantés là, d'ici l'année prochaine, peut-être il y aura moins d'un tiers mm-hmm. qui vont résister.
Justement, parlant du projet de la ville de Niamey, mm-hmm. Le 3 août dernier, les autorités ont distribué 10 000 plantes à plusieurs groupements, associations et ONG. Ils disent que cela rentre dans le cadre d'un projet qui vise à planter 3 millions d'arbres de la ville de Niamey et donc pour faire de Niamey une ville fruitière et verte. Roufaï Dandoua, êtes-vous optimiste quant à l'aboutissement de ce projet malgré ce que Hussein vient de déplorer?
Non, je pense qu'il ne faut pas décourager les gens. Dans ce qu'ils font, c'est bien. Il faut que Niamey soit verte. Il faut que, surtout avec l'avancée du désert, que pas que Niamey, tous les pays et tout le pays, le Niger s'entend soit vert, verdoyant, c'est mm-hmm. intéressant. Et très récemment à Ottawa, j'ai vu que dans le cadre de la fête tournante, ils ont planté, je crois que c'est des dattiers qu'ils ont mm-hmm. plantés, exportés, importés d'un pays maghrébin. Mm-hmm. Mais quand tu vois ça, tu sens que ce n'est pas entretenu, ça n'a même pas poussé, ça n'a pas progresser, c'est dire que même la municipalité n'arrive pas mmh. à entretenir cela. Je pense que si de 75 à aujourd'hui, on a planté tous ces arbres et que tous ces arbres n'ont pas encore rendu le Niger vert, ça va, et le travail va être mmh. extrêmement dense. C'est important de le faire, mais je pense que, comme on l'a dit, il ne suffit pas juste de planter, il faut l'entretenir. Maintenant, comment l'entretenir? C'est toute une politique qu'il faut mettre en place. Si c'est des comités qu'il faut mettre en place pour de suivi mmh. et d'évaluation pour que périodique pour qu'il le fasse à chaque fois, mmh. je pense qu'il faut le mettre. Il ne s'agit pas de venir mmh. le 3 août, le président qui plante un arbre, le premier ministre qui le fait, la première dame qui le fait, tout le monde qui le fait, et hop, un jour, deux jours, on oublie, on ne les arrose même pas, ça va. Donc, on n'aura rien fait. Je pense que il faut mettre en place une politique de suivi, évaluation, qui va permettre d'évaluer ce qui a été fait, où en sommes-nous pendant, sur, par exemple, 50 000 qu'on a planté à Niamey, combien ont résisté, combien sont morts, et voir maintenant comment faire pour que l'année prochaine, ça ne soit pas la même chose.
Alors, Elhadj Souleymane, il ne s'agit pas juste de planter, comme l'ont dit Roufaï et Ousseini. Il faut un bon suivi, il faut un entretien.
Absolument. Moi, j'écrivais sur Facebook si c'est vraiment sérieux. Mm-hmm. Le Niger allait être vert, c'est comme vous dites, ce qu'il y a aujourd'hui. On allait avoir une forêt, tout le pays devrait être une forêt. Donc, c'est pourquoi je suis d'accord avec eux. Il faut vraiment du sérieux. Mm-hmm. Et c'est pourquoi moi je pense que si on ne peut pas amener les gens à s'occuper, en tout cas à, par exemple les personnalités, leur prendre des engagements d'entretenir les arbres qu'ils vont planter. Mm-hmm. Aujourd'hui, quand tu prends dans 10 ans, les différents présidents, les différents responsables de l'État, montre-moi l'arbre que tu as planté pendant 10 ans. Il n'y a aucun peut-être qui. C'est-à-dire que, en fait, moi j'ai dit. Parce qu'on sait aussi qu'il y a un budget qui est dégagé pour ces fêtes.
Effectivement.
Mais pourquoi ce budget, on ne peut pas se dire que, bon, vraiment, comme ça ne donne pas, on est responsable du ministère de l'Environnement, les responsables des eaux et des forêts, en tout cas, qui sont des professionnels. Mm-hmm. Chaque année, ils ciblent dans le pays quelques. Mm-hmm. Vraiment.
Tu vois quoi.
Là, vraiment, on sait que peut-être que ça pourrait porter un peu, on mm-hmm. pourrait avoir un peu de résultats. Mm-hmm. Donc, franchement, je pense qu'il va falloir. Ne pas s'amuser avec cela. Mm-hmm. C'est important. ne serait-ce que le budget qui est alloué chaque année pour la fête du 3 août, vraiment l'utiliser de manière vraiment efficiente.
Merci. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Parlons politique à présent. Omar Nouma est désormais le président par intérim du parti Modène Falumana. Le verdict a été rendu par le tribunal de grande instance de Niamey. Information confirmée par Bana Ibrahim, membre du bureau national des jeunes de Modène Falumana, joint au téléphone par le studio Kalangu. Pour rappel, en 2019, Ahama Amadou, président du Modène Falumana, alors en exil, a suspendu Nouma Oumarou de son poste de président par intérim du parti, affaire qui a été présentée devant les juridictions nigériennes. Alors, Ousseini Issa, après donc d'interminables procès, Nouma Oumarou est désormais, il assure désormais l'intérimaire du parti Lumana. Selon vous, qu'est-ce que cela va changer au sein du parti?
Je ne vois pas. Vous savez, tout ce qui se passe dans ce parti-là, je pense depuis le début de cette crise interne, parce qu'il faut l'appeler ainsi, c'est délibérément, en tout cas, créé. C'est délibérément créé. Voilà, Nouma, et qu'est-ce qui a amené? C'était par rapport à la tenue du congrès, je crois, qui devait se tenir à Dosso. En tant que président intérimaire, Nouma avait convoqué le congrès à Dosso. Ceux de Niamey ont dit non, ce n'est pas possible, il ne peut pas aller tenir le congrès là-bas. C'était parti de là. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus profond. Nouma a été débouté même à Dosso, en tant que coordinateur régional, quand il a tenu sa coordination au niveau de Dosso. Maintenant, il est allé en justice, les autres l'ont suivi. Et c'était ça la bêtise. C'était ça la bêtise. Il n'aurait pas dû le suivre. Connaissant bien la posture, et comme avait dit, de Lumana, qui vis-à-vis comment dire, la situation dans laquelle il s'est trouvé déjà, moi je dis, ils auraient dû trouver une autre astuce, aller ne serait-ce qu'au Congrès. Ça va continuer, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça va devenir? Mais toujours est-il dit que ce qui est en train de se passer là, c'est que ça risque de créer les conditions pour que Lumana n'aille pas aux élections. Parce que si les deux camps, chacun campe sur sa position, je pense que au regard du temps, du délai qui reste pour aller aux élections, ça va être compliqué pour eux. Par conséquent, peut-être qu'ils vont trouver un mécanisme pour s'entendre et pouvoir constituer les dossiers de candidature pour aller aux élections.
Elle est Souleymane, qu'en pensez-vous?
Je pense que moi j'ai lu l'arrêt aujourd'hui, l'ordonnance en tout cas rendue, c'est que le juge dit que tous les actes posés par les Parkova et le Soumane Sana sont nuls et de nul effet. Donc par conséquent, comme nous l'écrivons hier, désormais, Omar Nouma est seul maître à bord. Celui qui va décider de ce, en tout cas, la suite sur le parti. Mais ce qui, moi, qui m'intéresse, contrairement à ce que dit Issa tout à l'heure, la crise au sein de ce parti, elle est interne. Et pour comprendre, il faut considérer le propos du SG du parti, Mohamed Sani Mohamed, qui a dit clairement qu'en réalité, la faute, c'était un combo au président du parti, Hama, qui a pris position. Au lieu de réconcilier ces militants, parce que ce soit l'aile Omar Nouma, que ce soit l'aile Parkova, Soumane Sanda, tout le monde dit que son candidat, c'est Hama Amadou. Donc, en tant que leader, Hama devrait avoir le sens, justement, d'un grand leader, les appeler, venez. Tout le monde chante par mon nom. Donc, par conséquent, si vous êtes sincère, on s'entend sur l'essentiel, on fait une assemblée générale unique. Voilà. Il ne l'a pas fait. Il a pris position. Et vous savez aussi ce que les gens ont de la difficulté à convaincre. J'ai entendu de grands militants de Lumana dire que, contrairement à ce qu'on pense, Nouma n'est pas du tout manipulé par qui que ce soit. Nouma a agi par son ego parce qu'il a estimé que...
Oui, c'est ce qu'il a dit aussi.
Tout à fait. Parce qu'en réalité, vous savez, ce qui aussi, on a vu les textes de Lumana, c'est qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, les noms connus
quand, en tout cas des militants de Lumana que tu connais, tu vas voir Numa Omar et Ali Zagazaga. Ali Zagazaga, il a quitté le parti, il est allé au PNS. Oui. Donc en réalité, le juge va lire le texte. Et effectivement, il va voir que c'est ce nom qui est sur le texte. Mais je ne nie pas que la faute. Nous avons déjà une jurisprudence dans ce pays. Le cas CDS et les autres partis sont passés par là. Donc il y a que il faut aussi, quoi qu'on dise, considérer qu'à l'interne, la direction du parti a eu à commettre une faute qui a été vraiment très fatale pour le parti. Parce qu'aujourd'hui, cela veut dire quoi? Soit maintenant, hier, il a appelé, en tout cas qu'il va tout le monde de venir. Mais quand même, hier, nous, on a fait un article, en tout cas, où il a fait une confidence, on l'a parlé de Hama Ali, en tout cas, dans sa perspective, Hama est légué aux oubliettes. Donc, cela veut dire qu'il y a vraiment une cassure de ce point de vue.
Roufaï Dandoua, quel sera donc l'avenir vraiment de ce parti?
Vous savez, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que le SG a dit. Déjà, moi, je le connais bien. Et Maman Sani, un homme sage, très pondéré, qui a été SG du MNSD, qui a été directeur de cabinet du président Tandja. C'est cela. Je suis entièrement d'accord avec lui que le problème, c'est Hama. C'est Hama qui que le nom génie politique, mais qui, pour une fois, s'est trompé de combat. Il s'est fait harakiri, je pense, et aujourd'hui, son parti est en train d'en subir les conséquences. Et les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, on risque d'aller, comme l'a dit Ousseini, vers des élections sans Lumana. Pourquoi? Parce que Hama, peut-être aussi dans son ego, il ne veut pas que ça soit quelqu'un de son parti qui va émerger et être peut-être plus roi que lui. Je pense que c'est tout ça qui fait aujourd'hui que Lumana est en train de subir les conséquences. Et encore, les militants qui pensent dans leur conception de la chose politique que c'est Hama ou rien. Sans Hama, il n'y aura personne au parti Lumana qui peut conduire ce parti aux élections. Or, personne n'est indispensable de la vie. Personne n'est éternel. Sinon, il n'y aura pas le cimetière. Il y a beaucoup de gens qui se croyaient indispensables et qui, à un certain moment, se sont réveillés et se sont retrouvés entre quatre murs. Donc, je pense que personne n'est éternel. Lumana doit se refaire, doit se changer. Les militants doivent se dire qu'il y aura un après Hama, comme il y aura un après Issoufou, comme il y aura un après Ousmane, comme il y aura un après tout le monde.
Merci.
Donc, le parti aussi
merci
va pas.
Merci. Alors, chers confrères, ici se referme le forum de la presse de ce vendredi 7 août 2020. Nous étions donc avec Ousseini Issa, journaliste à freelance, El Hadj Souleyman Mahamadou du journal à ligne Niger Inter et Roufaï Dandoua, journaliste à freelance. Merci à vous. À la modération, c'était Nafissa Damsirfo. C'est Nisaka. À la technique, à la régie vidéo, c'était Mustapha Ayouba. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la Fada. Et à partir de 18h15 le samedi, le forum à Hausa sur les commerces ambulants des petites filles à Douchi, risques et mesures. Et dimanche, le forum en sur l'utilisation des engrais chimiques. Au revoir.